Nous allons terminer cette question sur le mode de la... Je crois qu'on est arrivé à l'article 8. Ça fait déjà assez longtemps. Alors, il peut y avoir des troubles. La création s'introduit-elle dans les œuvres de la nature et de l'art? Saint Augustin, dans son commentaire littéral sur la Genèse, distingue de l'œuvre de la création l'œuvre de propagation. De propagation qui appartiennent à la nature. La difficulté actuelle est soulevée à cause des formes que certains penseurs disent ne pas commencer par une action de nature, mais subsister antérieurement dans la matière où elles seraient, estiment-ils, comme cachées. Mais cette idée ne leur vient que de l'ignorance de la matière. C'est la fameuse question des générations spontanées. Ils ne savent pas distinguer entre la puissance et l'acte et de ce que les formes préexistent dans la matière en puissance, ils concluent qu'elles y préexistent purement et simplement. Première objection, première quelque chose, on l'avait déjà vu du récent, n'est-ce pas ? C'est la question de la, ce qu'on appelle ordinairement la génération spontanée qui provient tout simplement qu'il y a dans la matière des germes. Et alors le conditionnement fait comme ça. Alors si évidemment vous ne voyez pas ça, vous dites qu'il apparaît quelque chose de tout à fait nouveau. D'autres ont prétendu que les formes viennent par création d'un agent séparé, de sorte qu'à toute opération de nature, la création s'ajouterait. Mais l'erreur provient cette fois de l'ignorance de la forme. Ces philosophes ne songent pas que la forme naturelle d'un corps n'est pas une chose subsistante, mais ce par quoi ou ce selon quoi quelque chose est, de telle sorte que devenir et être créé, n'appartenant proprement qu'aux choses subsistantes, ainsi qu'on l'a dit plus haut, les formes n'ont ni devenir ni création. Elles sont non créées. Ce qui devient par le fait de l'agent naturel, c'est proprement le composé fait de matière. Ainsi, dans les œuvres de la nature, la création n'intervient point, et quelque chose est toujours présupposé à l'opération de la nature. Vous voyez, ça c'est une question importante, difficile à bien voir, respecter l'ordre des causes. Pratiquement, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Respecter l'ordre des causes secondes. Ne pas faire appel tout de suite à la cause principale. Il y a des gens qui font appel tout de suite à la cause principale, vous savez. Ah, ça vient du démon. Est-ce que vous en êtes sûr? Le démon n'est pas une cause principale, mais du côté du mal, c'est quand même une cause importante. Ou bien alors du bien, Dieu intervient tout de suite. Non, il y a le cours des causes secondes. Et on doit respecter les causes secondes. Les causes secondes sont voulues par la sagesse de Dieu. Et donc, c'est ne pas entrer dans la sagesse de Dieu que de télescoper l'ordre des causes secondes. Mais il ne faut pas, à cause de l'ordre des causes secondes, supprimer complètement la possibilité de la cause principale. Ce serait supprimer la possibilité que Dieu intervienne d'une façon miraculeuse, et ce serait empêcher que Dieu intervienne dans les cas, par exemple, de la création de l'âme. Dans le cas de la création de l'âme, Dieu respecte les causes secondes, puisque de fait, le premier moment de la fécondation, c'est l'ordre des causes secondes. Et la création vient s'ajouter, non pas d'une manière miraculeuse, mais d'une manière selon la sagesse de Dieu, où il y a création de l'âme. À quel moment? C'est justement ça qui est très difficile à préciser. Enfin, c'est le seul cas, et c'est pour ça que la question se pose au point de vue théologique. Quand l'intervention de la cause première se fait, le miracle et la création de l'âme spirituelle dans notre univers, Notre univers est un univers qui implique un ordre d'intelligibilité et un ordre de cause-seconde. Alors, cet ordre des causes-secondes, nous devons, autant que possible, connaître. Et tout l'effort philosophique et tout l'effort de la science est fait pour connaître l'ordre des causes-secondes et respecter l'ordre des causes-secondes. Et comprendre que cet ordre des causes-secondes est voulu par Dieu et qu'il reflète l'ordre de la sagesse. Alors, voyons tout de suite les réponses. Toutes les œuvres de la nature et de l'art aboutissent à quelque forme. Or, la forme ne peut venir d'un élément antérieur, puisqu'en elle, il n'y a pas de matière. Elle est donc produite de rien, et ainsi, en toute œuvre de la nature et de l'art, il y a création. Alors, réponse. On voit par là. En quoi pêche ce premier argument? Ça, c'est la glose marginale. Les formes commencent à être en acte quand le composé est formé. Mais ce n'est pas qu'elle-même soit faite directement ou en elle-même et en elle-même. Elles sont faites seulement par accident. Ça, c'est une question très importante. Formé incipiunt esse in actu, compositis factis. Les formes sont en acte dans le composé physique. Et par le fait même, elles sont comme éduites de la matière. Et elles ne sont pas créées. Seule l'âme spirituelle ne peut pas être réduite de la matière. Parce que l'esprit ne peut pas être réduit de la matière. Ne peut pas provenir de la matière. Et c'est pour ça que l'âme spirituelle est nécessairement directement créée par Dieu. Mais toutes les autres formes, tous les autres vivants, proviennent d'un autre vivant qui, lui, est un composé. C'est pas la forme, c'est, alors c'est dans le livre Zeta d'Aristote, où Aristote précise ça d'une façon très très nette. Et ce qui est intéressant, du reste, ce qui est très intéressant, à bien comprendre comment, de fait, les formes physiques proviennent nécessairement du composé. Et qu'elles proviennent toujours de la cause matérielle, cause dispositive. Et que l'agent agit sur la matière pour permettre l'éduction de cette forme. C'est-à-dire que cette forme apparaisse. Alors, seconde objection. En outre, l'effet ne peut pas dépasser sa cause. Or, dans les choses naturelles, on ne rencontre de cause que les formes accidentelles, actives ou passives. Cette action naturelle ne peut donc aboutir à la forme substantielle, et il reste que celle-ci doit être créée. Alors ici, on dit que c'est les formes substantielles qui sont créées. C'est à tort aussi qu'on attribue l'action naturelle aux qualités actives ou passives prises séparément. Dans la nature, les qualités actives agissent en vue, en vertu des formes substantielles. Et c'est pour cela que l'agent naturel produit son semblable non seulement en qualité, mais aussi en espèce. Ça, c'est toute la question de l'opération physique. L'opération physique se fait par des qualités qui sont accidentelles, mais ces qualités sont liées à la nature. Et parce qu'elles sont liées à la nature, c'est la nature qui agit. Or, la nature peut avoir un caractère substantiel et être source d'une autre réalité substantielle. Donc, ce n'est pas la qualité accidentelle qui est source d'une nature substantielle. C'est la qualité liée à la nature. Ça, c'est de la philosophie de la nature, hein, et de la philosophie du vivant. c'est important à saisir ce que précise ordinairement entre le quo et le quam. C'est ça qui est en cause ici. On a eu par les qualités. C'est les qualités qui permettent immédiatement le contact. Les qualités proviennent d'une nature. Regardez pour une nature vivante. Le chat, source d'un autre chat. La souris, source d'une autre souris. N'est-ce pas ? Il est bien évident que ce n'est pas la nature vivante qui agit directement. Puisque toute nature est un principe radical dans notre monde physique, que cette nature n'agit que par les accidents, puisque c'est toujours dans l'ordre du devenir. Le devenir est accidentel. Il agit par les qualités. La nature vivante agit par des qualités accidentelles. Mais ces qualités sont conjointes à la nature vivante. Et la nature vivante agit par ses qualités. Et c'est ce que la scolastique aura défini par le quoi et le quoi. Celui qui agit et ce par quoi il agit. Il agit par les qualités accidentelles, mais c'est le vivant qui agit en se servant de ses qualités accidentelles. Prenez l'exemple très simple. Je prends ce livre. Est-ce que c'est moi qui prends le livre ou est-ce que c'est ma main qui touche le livre et prend le livre ? Il y a les deux. Si j'avais ma main coupée, je ne pourrais pas prendre le livre. Grâce à ma main, je prends le livre. Grâce aux qualités particulières qui fait que je sens que c'est un livre. Si je ne sentais rien du tout, ben je ne pourrais pas prendre le livre. Je sens, je touche. C'était un corps gluant que je ne connais pas du tout, je ne pourrais pas le prendre. Je le connais, je sais tout de suite. Voyez, quand vous retrouvez votre manteau, dans un tas de manteaux, touchez, tiens, individuel, ça c'est bien. Touchez donc, vous le prenez grâce aux qualités sensibles. S'il n'y avait pas de qualités sensibles, s'il y avait des qualités commune. C'est-à-dire, un numéro parmi les tels, le tout c'est que chacun le sien, ça fait l'importance. Donc les qualités sensibles individualisent et permettent de reconnaître. Donc c'est le quoi, c'est ce par quoi je reconnais le livre ou le manteau. Et je peux le prendre. Et celui qui le prend, c'est le vivant. C'est vous qui êtes source de toutes vos activités. Ça on verra à propos de la personne. La personne est un quoi qui agit par les quoi. C'est évident, on agit par nos qualités. Il ne s'agit pas uniquement d'être un quoi. Il y a des gens qui sont merveilleusement substantialisés et n'ont aucun contact. Il leur manque un petit je ne sais quoi qui les contacte, les qualités sensibles qui permettent le contact. Sont complètement figés dans leur quoi. Ah, c'est parfait. Ils sont une personne, ils sont une substance. On n'agit pas par la substance. On n'agit pas les qualités. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui. C'est ça qu'il faut indiquer. Non, c'est tout simplement. Mais c'est l'aspect substantiel de la réalité qui agit. Seule la substance est sujet de tout. La nature ou la substance est sujet de toutes mes opérations. Alors, c'est la distinction entre le quoi et le quoi. Distinction extrêmement classique en scolastique et qui se fonde sur ce fait que nous agissons à travers et par nos qualités sensibles. Et que ce n'est pas les qualités sensibles qui agissent, c'est nous qui nous servons de notre main. Nous nous servons des qualités sensibles. Nous nous servons des qualités sensibles et des qualités et des sensibles communs. On se sert de pour pouvoir agir. Alors, troisième objection. En outre, la nature procède du semblable au semblable. Or, il y a dans la nature des êtres engendrés par un principe absolument dissemblable. Comme c'est évidemment le cas des animacules engendrés par putréfaction. Donc, la forme de ces êtres-là n'est pas l'œuvre de la nature, mais d'une création, c'est une génération spontanée. Hein. Vous laissez le fromage couler, qu'est-ce qui en sort? Pas du fromage. Le semblable engendre le semblable. Vous voyez bien, c'est assez curieux. Vous ne saviez pas que vous aviez pris tant de choses vivantes et qui étaient là présentes. Vous ne saviez pas. Semblable engendre la putréfaction fait qu'on voit des tas de choses qui avancent. Et si vous regardez ça avec un microscope hein, ou simplement une loupe, oh là là, vous n'avez plus du tout envie de manger après. Plus du tout. C'est effrayant. Heureusement qu'il n'y a pas de loupe au bout de mes yeux pour regarder. Si chaque fois que je mangeais quelque chose avec une loupe, ça m'enlèverait tout l'appétit. Les choses un peu faisandées. Alors, on argumente encore de la génération spontanée, mais celle-ci s'explique par ce fait que pour la génération des animaux imparfaits, un agent universel peut suffire, à savoir la vertu céleste. À cet agent universel, ses effets sont semblables, non en espèces, mais selon une certaine analogie. C'est bien évident. Parce qu'il y a toujours un agent univoque. Quand le petit ver apparaît, il y avait quelque chose qui permettait au ver d'apparaître au milieu de un milieu particulier. Et le soleil agit là-dessus. Le soleil ou la chaleur. C'est évident que ça permet que ça va plus vite quand il fait chaud. Quand il fait froid, quand vous mettez dans le frigidaire, hein, ça se conserve mieux. Il n'y a donc pas lieu de dire que les formes de ces êtres soient créées par un agent séparé. Quant aux animaux parfaits, un agent universel ne suffit pas à les engendrer. Il faut qu'un agent approprié, à savoir un agent univoque. Toujours il y a un agent univoque. Ça, ça d'abord reste encore, vous voyez, lié à quelque chose qui est les générations spontanées d'Albert le Grand et du Moyen-Âge. On ne peut pas parler aujourd'hui de générations spontanées. On ne peut plus. Dites que partout, il y a un agent univoque. Tout le temps. Mais c'est vrai que le milieu permet certaines apparition, certaines évolutions qui ne se feraient pas autrement. Alors, dernière objection. Au surplus, ce qui n'est pas créé n'est pas une créature. Si donc nulle création ne se mêle aux œuvres de la nature, il s'ensuit que les œuvres naturelles ne sont pas des créatures, ce qui est une hérésie. Bon, ça c'est la très grosse objection. Quant à la nécessité d'être créé pour être une créature, il y a là une confusion verbale. Comme les opérations de la nature présupposent toujours les éléments et ou principes créés, on appelle pour cette raison créature les êtres que la nature réalise. Mais il ne s'ensuit pas qu'elles soient directement créées. Directement créées. C'est le directé qu'il faut souligner. Autrement dit, confusion entre ce que représente une réalité qui peut être créée et qui peut très bien être créée par des intermédiaires, des causes secondes. Oui. Seule une réalité subsistante, en elle-même et par elle-même, réclame la création. Un être parfait, il faut l'esprit. La matière peut très bien impliquer qu'il y ait des causes pour qu'apparaissent telle chose. Alors ça, c'est une chose, c'est une question très délicate, parce que c'est la grosse question d'aujourd'hui, vous voyez. la question qui se poserait, nota bene, si vous voulez, la question de saint Thomas, parce que si saint Thomas était là aujourd'hui, il poserait la question, ça c'est sûr. À quel moment pouvons-nous préciser exactement l'intervention de la création? C'est vraiment ce problème. Il y a l'univers physique, le cosmos. À quel moment devons-nous, face à cet univers, dire qu'il y a nécessairement intervention du Créateur? Vous voyez le gros problème, hein? L'univers physique, dans sa totalité, le tout, tel qu'il est actuellement, tel que je peux l'inspecter actuellement, tous les appareils possibles et les télescopes pour essayer de comprendre, voir ce que cet univers. Cet univers a-t-il été créé tel qu'il est maintenant? Ou cet univers a-t-il été créé d'une autre manière, comme aujourd'hui, il y a un premier moment où il y avait tout simplement une espèce de molécule première, puis bon, boum, ça a éclaté successivement. Et on est en présence d'un univers qui s'est organisé progressivement. Hypothèse scientifique. On ne peut pas dire que nécessairement ça a été comme ça. L'écriture ne me dit pas le comment de la création de l'univers. Ce que je peux dire, c'est que ce tout, dans sa totalité, ce tout dans sa totalité a nécessairement été créé par Dieu. Mais pas nécessairement dans l'ordre qu'il a actuellement. Ça, je ne peux pas. Mais le tout, ben, ce tout était une première molécule, un point de départ, un atome premier, très bien, d'une richesse extraordinaire, d'une intensité extraordinaire, avec des virtualités. C'est très possible. Je n'en sais rien. Je peux simplement émettre, si vous voulez, certaines considérations de dire que nécessairement cet univers a été pensé par Dieu, même dans son éclatement. Alors est-il plus sage de la part de Dieu de créer un premier atome premier qui s'est éclaté, ou est-il plus sage de la part de Dieu d'avoir créé tout de suite un homme? Je n'en sais rien. Nous verrons ça dans le ciel. Ça, dans le ciel, nous verrons, ça fera partie de notre vision béatifique. D'assister au boom premier, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. D'assister, c'est une récréation, n'est-ce pas? Puisque l'éternité, la vision de l'éternité, me permet de voir toute la succession du temps. Donc, je verrai le premier instant de notre univers. Donc ce que je dois dire, intervention de la création, intervention du Créateur, pour le tout, que ce tout ait été le premier atome, que ce tout implique un ordre tel que je le vois, je n'en sais rien. Je peux mettre des hypothèses simplement. Deuxièmement, dans ce tout, la vie apparaît, le vivant apparaît. Dans ce tout, non seulement le vivant apparaît, mais l'homme apparaît. Je m'exprime au premier moment du tout dans lequel il n'y avait pas le vivant. Parce qu'au fond, c'est les hypothèses scientifiques qu'on émet aujourd'hui. C'est très très possible qu'il y ait eu d'abord un univers physique, purement physique, qui ait existé. Ce n'est pas contraire à la foi, ce n'est pas contraire à la métaphysique. Donc, très bien, soyons le plus large possible, hein, vous savez, par rapport aux savants, il faut simplement être attentif pour montrer qu'à certains moments, je dis non, là c'est impossible. Alors, le passage de ce monde physique, de ce tout physique au vivant, est-ce qu'il implique nécessairement une intervention? Vous voyez, l'île de Monod, parce que c'est l'île de Monod, ça. Hein, le hasard, la vie. Monod dit, la vie apparaît,
le hasard.
C'est ce qu'il dit. Tout simplement. Il y a un ensemble de données qu'il faut pour que le vivant apparaisse. Et ça, on peut étudier, on peut très bien étudier ce qui est nécessaire comme condition pour que le vivant apparaisse. Mais vous voyez, ces conditions sont du côté matériel. J'analyse chimiquement les conditions nécessaires pour que le vivant apparaisse. Si ces conditions ne sont pas là, le vivant n'apparaîtrait pas, puisque dans tous les vivants, je retrouve la même chose. Donc, c'est nécessaire. Le vivant apparaisse avec ces conditions. Il n'y aurait plus, hein ? Il n'y aurait plus à avoir un autre vivant. C'est possible. Et dans notre univers, c'est de fait comme ça. Alors, est-ce que la vie, le vivant, le premier vivant, poisson, les champs, ce sont des poissons. Les poissons sont nos ancêtres. Il semble bien que la vie est d'abord apparue dans la mer et que c'était le premier lieu de la vie. Puis après les reptiles. Mais en fond, c'est le premier lieu. Ce n'est pas les oiseaux qui ont parlé du premier lieu. Puisque nous tendons vers le bec. Hein. Vous savez bien, nous tendons vers le bec. Les dents de sagesse disparaissent et nous tendons vers le bec. Ils seront tous un bec. Alors, c'est le, en tant que l'oiseau, c'est pas du tout premier. C'est, au contraire, tout à fait le poisson qui est tout à fait premier. Alors, est-ce que pour le premier poisson, il y a eu nécessairement une intervention de Dieu? C'est la grosse question. Métaphysiquement parlant, théologiquement parlant, est-ce que je dois dire que nécessairement pour le vivant, il y a eu une intervention de Dieu? Ou est-ce que je peux dire qu'il y a une continuité entre les deux qui s'explique uniquement par l'écosomme? Ça, c'est une très grave question. Question qui n'est pas commune. Vous savez ce que Maître Eckhart dit? Toujours intéressant. Maître Eckhart, il n'était pas bête. Maître Eckhart, quand il commente la Genèse, il dit « Dieu crée des êtres. » Et il est père de la vie. C'est beau comme distinction. C'est une distinction du reste que les néoplatoniciens avaient déjà donnée. Donc c'est une distinction que philosophiquement je peux très bien dire. Dieu n'est pas père de l'univers physique. Il est créateur de l'univers physique. Il n'est pas père. Il est père dans la communication de la vie. Ça, c'est vrai. La paternité, c'est la communication de la vie. Tandis que comme créateur, il est beaucoup plus architecte. Hein. Il est beaucoup plus celui qui est artiste. C'est Dieu artiste qui construit le monde physique. C'est un art extraordinaire, le monde physique. C'est un art merveilleux d'avoir pensé cette chose d'une matière organisée qui s'organise. Alors, quand Dieu est père, est-ce qu'il y a nécessairement un acte du créateur nouveau? Chino, à la manière de Descartes. Est-ce qu'il faut une chino divine pour que la vie apparaisse? Ou est-ce qu'il faut simplement laisser l'éco-seconde? Je crois qu'on doit dire, hein, c'est très délicat, je crois qu'il faut dire que la vie, telle qu'elle apparaît dans notre monde physique, introduit des lois tellement différentes que des lois physiques, qu'il faut nécessairement une intervention du Créateur. Donc ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas uniquement une harmonie d'éco-seconde. Pourquoi? Il y a un degré d'être supérieur. Le vivant représente un degré d'être supérieur. Le monde physique, purement physique, n'explique pas la vie. Ça, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. Je sais très bien, ça c'est un fait, vous savez, le professeur Marois, que j'aime beaucoup, que j'essaie de voir chaque année pour dit les petites nouvelles dans son domaine, par particulier, c'est toujours intéressant, me disait l'année dernière, quand il est revenu d'un grand congrès à Bruxelles, des plus grands biologistes, il disait les biologistes se divisent en deux. Aujourd'hui, les réductionnistes et les spiritualistes, comme on le dit. Donc les réductionnistes, la matière explique tout. La quantité explique tout. Et les spiritualistes, non, il faut quelque chose d'autre. Ça m'intéresse beaucoup au point de vue philosophique, vous voyez, de voir que de fait, les savants ne sont pas d'accord. C'est toujours très intéressant quand les savants ne sont pas d'accord. Parce que le philosophe est libre, vous comprenez. Quand tous les savants disent la même chose, le philosophe doit tenir compte de cela. Diviser pour régner. Vieille chose, hein. Alors quand vous savez que les savants ne sont pas entièrement d'accord, alors évidemment, les réductionnistes sont beaucoup plus nombreux. De dire qu'à travers le monde physique et le monde physique étudié pour lui-même, je découvre la vie. Et vous voyez que c'est un problème très délicat, parce que notre monde physique, alors l'expérience que nous avons, c'est quand même notre monde physique. Notre monde physique est un monde habité. C'est un monde dans lequel il est vivant. Vous ne pouvez plus, dans la terre, dire je prends de la terre et cette terre, elle n'est pas vivante. Mais non, cette terre, elle est vivante. Puisque dedans, il y aura des quantités de petites semences, n'est-ce pas, qui seront dedans. La pierre, oui, la pierre, c'est difficile de faire que de la pierre sorte un petit vivant. N'est-ce pas, normalement, c'est difficile. Mais au fond, la terre, c'est différent. L'eau, c'est différent. Sauf qu'on comprend très bien que le problème est très délicat et qu'on ne peut pas avoir l'expérience de quelque chose qui est complètement stérile. Un monde dans lequel il n'y a pas la vie, vous savez que ça nous fait toujours froid dans le dos. Quand vous êtes à la mer morte, hein, où la vie n'apparaît pas, ça vous fait froid dans le dos. Et quand vous êtes dans des expériences aujourd'hui qu'on fait au point de vue médical, vous savez, de vous mettre dans des lieux complètement stérilisés, où on voit le malade derrière la glace, complètement stérilisé, ça vous fait toujours froid dans le dos. Parce que notre monde est un monde des vivants. Et nous sommes habitués à ça. Et supprimer la vie, stériliser, donc supprimer la vie, pour que ce soit uniquement propre, ça vous fait froid dans le dos, parce qu'on est tellement en connaturalité avec les vivants. C'est pour ça qu'au fond, je ne peux pas avoir l'expérience directe. Alors évidemment, on dira dans la Lune. Dans la Lune, est-ce qu'il y a de la Terre? Il n'y a pas d'eau. Il y a de la pierre. De la pierre. Le vivant n'apparaît pas. Alors, il y a des degrés au niveau du physique. Le physique implique des degrés, plus et moins, avant d'arriver au vivant. C'est évident. Et il y a une disposition du physique vers le vivant. Le physique comme tel n'est pas directement en harmonie avec le vivant. Et ça, les lois physiques le montrent bien. Les lois physiques sont inverses, mais il y a du plus et du moins. Alors, vous comprenez que si vous prenez celui qui est tout proche du vivant, alors à ce moment-là, vous pourrez redécouvrir à l'intérieur du physique des choses très proches du vivant. C'est très vrai. Mais est-ce que ce n'est pas l'influence du vivant sur le physique? Il y a une interaction là-dedans. C'est forcé. Notre monde est un monde de vivants. Et notre terre est habitée par des vivants. Et donc le physique de notre terre est transformé par le vivant. Et donc il y a une interaction entre les deux. C'est donc extrêmement difficile pour nous d'arriver à séparer. On peut distinguer, on ne peut pas séparer. Donc il y a constamment un faux problème. Ce que je crois, alors c'est là où je dirais au point de vue philosophique, parce que le philosophe ne cherche pas lui, ce que je crois, c'est que le monde physique, dans ce qu'il a de plus physique, de plus matériel est un degré d'être tout à fait différent du degré d'être du vivant. Dès que la vie apparaît, il y a autre chose. Et s'il y a autre chose, il y a donc des degrés d'être. Et je ne peux pas passer de l'un à l'autre. On voudrait bien le faire. On n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. On est obligé, pour que la vie soit, qu'on passe les virus, qui sont les intermédiaires, qui vont... On n'arrive pas. De sorte que je crois que philosophiquement, on doit dire que le vivant exige une intervention spéciale du Créateur. Je crois que philosophiquement et théologiquement, parce que là c'est la même chose, hein, c'est le même jugement, parce que le théologien ne dit pas plus, on va pas prendre, étant donné que le début de la Genèse est donné d'une façon symbolique, je ne peux pas à partir de là dire, voyez, premier jour, troisième jour, alors il y aurait six interventions du Dieu. Si je suis matériellement l'écriture, première intervention du Dieu, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, alors est-ce que les six jours montrent six interventions de Dieu? Non, sûrement pas. Ça, ce serait une vision beaucoup trop matérialiste. Trop matériel, si vous voulez, trop fondamentaliste. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une intervention de Dieu pour le vivant. Le monde des vivants est intervention de Dieu pour l'esprit. Alors ici, c'est beaucoup plus certain. Ici, je crois bien, je dirais que c'est il y a quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, qui ne peut pas se ramener au tout, donc il y a intervention. Mais le vivant existant, il se développe par lui-même. Oui. Le vivant existant se développe par lui-même. Alors, on comprend très bien qu'il puisse y avoir une évolution à l'intérieur du vivant. Ça, c'est pas gênant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le passage de l'un à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le passage du vivant à l'homme. Je dirais donc que ces deux passages impliquent deux interventions. Donc, il y a trois interventions de Dieu. Au point de vue proprement métaphysique et théologique. Il y a trois interventions de Dieu qui sont sûres. Vous pouvez y voir d'autres. Est-ce que Dieu est intervenu chaque fois qu'il y a des moustiques différents? Est-ce que la sagesse de Dieu ayant pensé tous les moustiques possibles, est-ce que Dieu intervient nécessairement pour une diversité de moustiques? Est-ce qu'il y a une intervention de Dieu? Parce qu'au Moyen-Âge, on aurait dit, chaque fois qu'il y a une espèce, il y a une intervention de Dieu. Une espèce différente. Pour créer le lion, le roi des animaux, quand même le créateur du mérite là. Pour créer le roi des animaux. Est-ce qu'il donc nécessairement, est-ce qu'il fallait mettre un sommet parmi les vivants, où Dieu crée le vivant? Le premier, le dernier, hein, l'alpha et l'oméga parmi les vivants. Pas l'homme, hein, l'alpha et l'oméga. Alors, le poisson, primitif, n'est-ce pas, tout à fait, quelque chose de tout à fait premier, et puis le dernier, le roi des animaux, le plus évolué parmi les animaux, ce qui est le plus parfait. Alors, deux interventions de Dieu. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois qu'on peut dire simplement le passage du physique au vivant, et le passage du vivant à l'esprit. Le reste, on ne sait rien. Donc, trois interventions de Dieu. Et non pas intervention de Dieu pour chacune des espèces. Parce qu'au fond, les espèces, vous comprenez bien, ça ne rejoint pas la réalité. Et c'est là l'erreur enfin, du ce fameux problème de l'évolution. Les espèces, c'est un regard du savant. La logique intervient. Les espèces comme espèces n'existent pas. Qu'est-ce qui existe? La nature. La nature vivante. Et la nature vivante a des modifications extrêmement lentes. Mais des modifications. Vous voyez, il y a confusion chez Darwin, et ça c'est intéressant à noter. Chez Darwin, il y a la confusion entre espèce et nature. Qu'est-ce que c'est que la confusion entre espèce et nature? C'est la confusion entre la logique et la philosophie. Depuis notre cher ami Occam, on avait cette confusion. Et Darwin est encore dans cette confusion. Il est occamien, Darwin. Si j'étais occamien, je devrais respecter. Mais comme je ne le suis pas, je dis il y a confusion. Alors on parle de évolution des espèces. Ça n'a pas de sens. Mais c'est hybride, hein, évolution des espèces. L'évolution, c'est au niveau de la vie. Espèce est au niveau logique. Alors ne mariez pas les deux. Parce que ça fait un mulet. Alors ça ne va pas du tout. C'est absolument impossible. L'évolution est au niveau biologique. C'est au niveau de la vie. Et l'espèce, c'est la logique. Alors parlons de l'évolution de la nature vivante. Très bien. Alors l'évolution de la nature vivante, c'est beaucoup plus souple. Tandis que l'espèce, c'est comme les nombres. C'est un aspect logique. C'est l'intelligence humaine qui précise les espèces. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Parce que je ne connais pas parfaitement la nature des vivants. Alors vous voyez la confusion qui s'est faite et qui a entraîné des quantités de faux problèmes, comme toujours. Quand vous confondez logique et philosophie, il y a des tas de problèmes qui sont faux. Bien là, je crois que c'est un des problèmes très faux, qui a mis cette erreur et qui a bloqué les gens, alors les gens de droite, les gens de gauche, immédiatement, les évolutionnistes et non-évolutionnistes. Non! Posons le problème beaucoup plus comme ceci. Alors là, on touche quelque chose de réel. Il y a le monde physique qui est le tout. Dans ce monde physique, il y a des vivants, très bien. Et parmi ces vivants, il y a l'homme. Alors, essayons de préciser exactement au point de vue philosophique le passage entre les deux. Et disons que ce passage implique nécessairement une intervention du Créateur. Donc, il y aurait première intervention du Créateur, le tout. Le vivant et l'homme. Le reste peut très bien s'expliquer par les cosmos. Ça peut très bien s'expliquer par les cosmos. Je crois que lorsqu'il s'agit du vivant, c'est très possible que le vivant n'ait pas apparu uniquement un seul vivant. Dieu a voulu aller un peu plus vite. C'est très possible, mais je ne peux pas l'affirmer. Tandis que je peux affirmer qu'il y a nécessairement une intervention du Créateur pour passer du physique au biologique. Et pour passer du biologique à l'esprit, je dois affirmer aussi l'intervention du Créateur. Donc, vous voyez, ça complète la leçon, parce que c'est ça, au fond, cet article que saint Thomas se pose. En réalité, c'est ça, c'est l'intérêt de cet article. La création s'introduit-elle dans les œuvres de la nature et de l'art ? Les gens qui sont de l'art, c'est facile à comprendre, mais la nature, c'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, ça se pose de cette manière-là, non pas à la manière de saint Thomas.